plus Lille, il est 19h.
Mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques. C'est les briques rouges.
Finis pas, jouez pas au con avec
moi. On est trop gentil.
Le rouge c'est la couleur du sang, le rouge c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence.
On est gentil, hein? On est toujours gentil.
C'est tout ce capitalisme.
Arrête-toi.
Mais le rouge c'est aussi la couleur du vin.
Voilà.
Vin qui dit vin dit pot de vin. Parce que tout ça c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein.
Que Véran.
Bon, je suis ouvrier.
On est trop gentil.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6, en DAB+, sur le RNT et en streaming sur campuslille.com. Comme chaque lundi de 19h à 20h, on passe au rouge, une émission réalisée par Seb.
Et présenté par Gros Dada qui a mis un nœud papillon aujourd'hui.
Mais oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de monde dans le... Écoutez, je ne présenterai pas tout le monde, hein, mais il y a du monde ici dans le plateau. Alors aujourd'hui, on passe au rouge parce que, et c'est sans suspense, ce soir, vers 20h, vous êtes sûr que rien n'a encore changé.
Ah ça, c'est sûr.
Point.
Là, on tire, on a au moins une certitude.
Ça, on est sûr.
C'est bien celle-là.
Au sommaire de cette émission,
oui.
On retrouvera un reportage dans l'acte 22 des Gilets jaunes à Lille. On ira écouter Laurent. Oui, Laurent, tu es là avec
Laurent,
nous. D'habitude, tu
moi.
N'es pas là. Laurent de Dans le Rouge, hein, qu'on entend une fois par mois, souvent.
On l'appelle Laurent Dans le Rouge, tout court.
Laurent Dans le Rouge,
simple.
Ouais. Il voilà. est venu parler du référendum d'initiative partagée sur l'aéroport de... Enfin, le RIP
Alors,
de l'ADP,
pas,
quoi.
En fait, c'est pas le... C'est pas le... oui, voilà. C'est pas le référendum d'initiative partagée. Si, c'est ça.
Si, c'est ça.
C'est partagé.
Oui, c'est ça.
C'est pas le RIC. C'est le RIP qui existe, effectivement, en ce moment.
Oui, mais... Oui, on entend beaucoup de qualificatifs sur ce référendum. Alors, on ira écouter aussi ce qui s'est dit à la réunion entre des jeunes syndiqués CGT et des gilets jaunes à Tourcoing le 3 avril dernier. Et en fin d'émission, allez vers... oui, à la toute fin de l'émission, on aura Yanis au téléphone et il est lui-même l'organisateur de cette
si
rencontre.
Si je puis me permettre d'ajouter que on entendra aussi un petit reportage dans l'acte 22 à Lille. On avait vu Jérôme Rodriguez et Francis Ladal, mais on n'entendra qu'un seul des deux. Je vous laisse deviner lequel.
Mais alors tout de suite, et comme chaque semaine, on retrouve Jérôme Leroy et son talon de fer, une chronique à lire dans Liberté Hebdo, bien sûr.
Le bruit des gilets jaunes donne le cancer. On devrait proposer ce jeu dans les ateliers d'écriture. Toi aussi, invente le mensonge le plus gros possible sur le sujet de ton choix. On vient en effet d'apprendre, par le biais du Washington Post, que Donald Trump, depuis son élection, a menti 9451 fois. Le journal a arrêté son décompte au 1er avril dernier, ce qui signifie que ce chiffre de 9451 est déjà dépassé. En effet, Donald Trump a menti en moyenne 6 fois par jour sur sa première année de mandat, pour monter à 22 fois par jour sur les 6 derniers mois. Le mensonge, pour Trump, c'est une drogue dure. Il lui en faut toujours plus pour obtenir le même plaisir. Dans son cas, on est en présence d'un mélange étonnant de bêtises, d'inculture et de paranoïa, comme chez le dernier des complotistes de bistrot. Il n'en est pas encore à dire qu'il y a une base militaire nazie sur la face cachée de la Lune depuis 1945, ou que le président Kennedy a été assassiné par des Illuminati, mais on s'en approche en douceur. On appréciera un des derniers en date, lancé lors d'un dîner avec les élus républicains du Congrès. Le bruit des éoliennes donne le cancer. La phrase est belle comme une proclamation surréaliste. Il a tout de même fallu un démenti des associations américaines de médecine pour contrer la parole présidentielle. Parce que, précisément, ce n'est pas sorti de la bouche d'un pilier de comptoir, mais du président des États-Unis. Évidemment, on comprend la raison de ce mensonge dans la logique de Trump, tout entier inféodé au lobby du pétrole et du nucléaire. Il doit absolument discréditer les éoliennes. Mais balancer qu'un bruit donne le cancer, on reconnaîtra qu'il fait fort. Chez nous, Marine Le Pen, qui n'aime pas non plus les éoliennes, explique qu'elles coûtent 8 milliards d'euros par an. C'est faux, en fait, on en est plutôt dans les 1,3 milliards. Mais au moins, ça a l'air vrai. C'est peut-être d'ailleurs en cela que si c'est moins idiot, c'est sans doute plus dangereux. Encore que, on est tout de même au stade où il faut démentir ce qui aurait autrefois fait éclater de rire n'importe quelle personne un peu sensée. Il faut croire que Trump a compris, il aura au moins compris quelque chose. Le principe de Goebbels, le ministre de la propagande du Troisième Reich. Plus c'est gros, plus ça passe. Ou alors, que Trump illustre parfaitement la prophétie du film Idiocratie. Il y ajoute aussi sa propre note. Plus un mensonge est répété, plus on a de chances de finir par le croire. Le Washington Post relève ainsi que parmi les 9451 mensonges prononcés par Trump, ceux qui sont répétés plusieurs centaines de fois concernent l'immigration et le fameux mur qu'il rêve de construire entre le Mexique et les USA. Ok, moquons-nous de Trump et plus généralement de la propension aux mensonges des populistes d'extrême droite pour faire passer des fake news. Mais nous, sous le règne de Macron, sommes-nous vraiment mieux lotis ? Il y aura, plus tard, une histoire à faire des mensonges d'État qui ont été proférés à propos des Gilets jaunes. Il faudra étudier, par exemple, les propos de Castaner, qui continue à nier la révolte sociale, la lutte des classes qui se répète chaque samedi, pour tenter de faire passer des gens qui réclament une vie qui ne soit pas une survie, pour des casseurs antisémites, des brutes factieuses, j'en passe, et des meilleurs. Le système est certes plus élaboré que celui de Trump. Le nouveau monde macroniste n'aime pas passer pour un régime autoritaire qui mutile, qui tue, qui arrête, qui vote loi d'exception sur loi d'exception. Alors, ce même gouvernement fait mine d'ouvrir un grand débat bidon dont il a lui-même fixé les sujets. Ils n'en sont pas encore à dire que le bruit des gilets jaunes donne le cancer, mais ça pourrait venir. On nous a déjà fait comprendre que l'augmentation des morts sur la route et celle des cambriolages, c'était la faute aux gilets jaunes qui cassaient les radars et occupaient trop les Pandores avec leurs manifs. Pourtant, le bruit des gilets jaunes, on a l'impression depuis 6 mois qu'ils luttent plutôt contre un cancer bien particulier, celui du néolibéralisme imposé à marche forcée en France par ce président si jeune et si intelligent, mais qui ressemble de plus en plus à Donald Trump, perdu dans un univers parallèle.
T'as mis ton gilet jaune et t'es mis à entonner Macron démission, les émissions de télé ont d'abord joué les tonnés. Du mal tu t'en es donné mais le mur est bétonné. T'as payé le prix fort, rentrant les coups, pas la monnaie dès lors. Manu dit que tu fais pas l'effort, qu'il te connaît. Crie très fort, t'es antisémite, tu adores Dieu donné. Dis que t'es un bouseux, un peu raciste, un peu paumé. Tu ne sais pas ce que tu veux, donc impossible de te le donner. Il dit que t'es un pauvre, ça se reconnaît. Il ne croit pas qu'être pauvre te sauve là où on veut te faire porter le chapeau ou le bonnet. Comme Christophe Dédinger qui a mangé cher mais au sommet. L'immunité promet l'impunité, la justice au mais quoi, c'est pas la joie, rentre chez toi, on t'a pas sonné. Ou à coup de ton fa, estime-toi heureux si tu n'es qu'assommé. Pour être honnête, si tu veux pendre Macron, mieux vaut te cramponner. Être éborgné ou prisonnier, c'est tout ce qui te pend au nez. Manu Militari, on prend la rue, ils prennent les armes, prend des coups, ils prennent les paris, hein. Les puissants font dans le mépris, impuissants font jamais tari. Chaque coup qu'ils t'affichent, c'est ta couleur, ton gilet que t'as ri. Manu Militari, on prend la rue, ils prennent les armes, prend des coups, ils prennent les paris. Au grand débat national, y'a que la ville qui varie. Le principe c'est rire de toi partout en province comme à Paris. T'as pris ton mal en peine, à force de prendre des balles de LB des pleines têtes, tandis que leurs mensonges tournent en boucle à l'antenne. Pourquoi les grandes chaînes, la boucle, elles qui nous parlent tant de haine? Quand c'est l'État qui te pète ta bouche, qu'on éclaire ma lanterne. Est-ce parce que Drahi est l'ami de Manu, que la bourgeoisie n'a jamais choisi la rue, que BFM met la tente zèle? Parce que son mépris de classe est mis à nu, que vernis a disparu, et que personne n'y croit plus ni n'attend d'elle. Castaner est très clair, qu'il ne fasse pas dans la dentelle. Sur nous les flics se passe les nerfs chaque samedi par centaines. Les blessés la remontent sans cesse, mais trouvent la pentraide. Pendant que la BAC s'entraîne sur nous, on s'exerce à l'entraide. Mais que Macron cède, c'est peu probable, j'concède. Qu'à part casser un tas d'enseignes jusqu'à ce que les grands patrons saignent. Y'a rien à faire, il s'avère que s'y faire sans ancien champion de Bercy comme Saint-Nazaire et Commerce y mettent fin à son règne. Manu Militari, on prend la rue, ils prennent les armes, prend des coups, ils prennent les paris, hein. Les puissants font dans le mépris, impuissants font jamais tari. Chaque coup qu'ils t'affichent, c'est ta couleur, ton gilet que t'as ri.
Ça fait quoi?
Manu Militari, on prend la rue, ils prennent les armes, prend des coups, ils prennent les paris. Au grand débat national, y'a que la ville qui varie. Le principe c'est rire de toi partout en province comme à Paris.
T'as dit, on va Manu.
Bah oui, mais il t'a eu, a pris le temps de t'afficher pour faire le toit la risée du bahut. Te ridiculiser publiquement, mêlant tout ce chahut. C'était que l'étendue de son mépris que nous on a vu. Toi t'as parlé des prix, t'as dit que tu t'en sortais plus, donc t'es sorti dans la rue. Lui, ça lui a déplu. T'as donné ton avis, les flics ont tiré à vue. Prends ton courage à une main, car demain t'en as plus. Tant il en a plus, d'actes violents t'as dû supporter tant d'abus. Battre en perdant la vue, endurer les dires quotidiens et méprisant de ma nu. Battre à main nu, prendre un anto, le drôle de droit vu. Que le commandant Andrieux n'a pas fait de garde à vue. Pourtant pas fait mieux, oui mais on en a moins parlé dans l'actu. Deux points de mesure, t'en mesures le poids, c'est là que tu sais ce qu'il en coûte de vouloir être entendu et de s'être battu.
Ouais, ma
Manu quoi?
Manu Militari. On prend la rue, ils prennent les armes. On prend des coups, tu prends les paris,
hein.
Les puissants font dans le mépris, impuissants font jamais tari. Chaque coup qu'ils t'affichent, c'est ta couleur, ton gilet tari.
Ça fait quoi?
Manu Militari. On prend la rue, ils prennent les armes. On prend des coups, tu prends les paris. Au grand débat national, y'a que la ville qui varie. Le principe c'est rire de toi partout en province comme à Paris.
Manu
Militari, on prend la rue, ils prennent les armes, prend des coups, tu prends les paris. Les puissants font dans le mépris, impuissants font jamais tari. Chaque coup qu'ils t'affichent, c'est de la couleur ton gilet tari. Manu Militari, on prend la rue, ils prennent les armes, prend des coups, tu prends les paris. Au grand débat national, y'a que la ville qui varie. Le principe c'est rire de toi partout en province comme à Paris.
C'était l'inconsolable avec Manu Militari. On passe au rouge. Retrouvez-nous pendant 2 mois sur campuslille.com. Où étiez-vous samedi dernier ? Eh bien, nous étions dans la manif encore une fois. Sébastien, tu étais micro tendu vers l'inconnu, l'acte 22 à Lille. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou on écoute directement ce reportage que tu as fait ?
On en entendra plus dans l'émission L'heure de le mettre à 18h30 ce mercredi. Parce que là, on partage toujours des sons, bien entendu. Mais ce qu'on entendra peut-être pas assez finalement dans les sons qu'on va passer, c'est ce qui s'est passé tout au long de la manifestation. C'est-à-dire que les forces de l'ordre nous ont poussés. Pendant toute la manifestation, qui était interdite, hein, je le rappelle, de centre-ville par la préfecture, considérant que ça devenait dangereux pour les alentours. Bon, les gens peut-être, je ne sais pas bien.
Les vitres.
Ouais.
Même pas.
Il y a des banques partout, de toute façon, oui. dans une ville comme ça. Donc il faut, les flics se mettent toujours devant. Dès qu'il y a un distributeur automatique, boum, il y a plein de flics qui s'y mettent, hein, c'est certain. Mais ce qu'ils ont surtout fait, c'est qu'ils nous ont poussés. Ils nous ont attaqués de l'arrière en permanence, à coups de charges, de gaz lacrymogènes. Il y a eu des moments, on ne l'entend pas dans les sons, j'ai pas eu le temps de tout mettre. Mais il y a eu quand même des petites barricades qui ont été dressées boulevard Montebello, hein, à plusieurs reprises, puisque le parcours faisait Vauban. Oisem, un peu Moulin, et puis retour vers République. Voilà. Bon, on entend plein de choses. On n'entendra pas Francis Lalanne. On n'avait pas le temps de passer non plus.
Malheureusement. Mais Jérôme Rodriguez.
C'est quand même pas con. On a eu Jérôme Rodriguez, voilà, un des leaders nationaux du mouvement des Gilets jaunes. Et puis aussi d'autres sons, des sons de brutalité policière, parce que c'est vrai que Lille, c'était calme. Maintenant, c'est clair, ça chauffe, faut le dire. Faut le montrer, puis c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Rajoutons simplement que il y avait une marche qui venait de hyper loin, de Liévin.
Ah oui,
imaginez, il y a des gens qui viennent de Liévin. Les manifs de Gilets jaunes, elles sont déjà pas assez grandes, hein, mais en plus, voilà, et qui avaient été rejoints par les Tourquenois qui les avaient rejoints à Seclin. Tout ça est un petit peu compliqué, mais enfin, pour aider à mieux comprendre, on a interviewé donc des copines qu'on rencontre régulièrement dans les manifestations des Gilets jaunes.
Depuis 9h30 ce matin, on a Seclin.
Ouais.
On a accueilli ceux qui sont arrivés de Liévin, avec les Tourquenois, et on les a aidés à se restaurer un petit peu, et ils sont partis sur l'île à pied, donc on les a suivis jusque l'île, jusqu'à la manif, 13h30, 14h, arrivés à Lille. Et après, on a refait la marche. Puis 9h ce matin, on est en route. Hein. Grave. Mais ça va, je trouve que c'était une bonne manif. Là.
Quel âge vous avez ?
65 ans.
Mais c'est pas prudent.
C'est juste. Ah pourquoi ? Je le fais pour eux. Regarde pour qui je fais la manif.
Tu fais la manif pour ?
Erwin.
Je vois rien.
Si, Erwin.
Erwin et Solène
Erwin,
et Laurent.
Solène et Lorraine.
Et c'est qui tout ça ? Ces petits-enfants ?
Trois petits-enfants, ah. Ouais.
Tirez la passe, monsieur Jérôme.
Bien sûr, ça va.
Enchanté.
Un joli chapeau.
Merci.
Merci, toi aussi.
Je suis un journaliste bénévole d'une radio libre locale, la Radio Campus.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est ? Là, on est à 5 mois, mais on en est à quelle étape pour vous dans ce mouvement ?
On en reste au point mort parce qu'on n'est toujours pas écouté par le gouvernement et qu'à défaut d'entendre nos revendications, ils préfèrent nous péter la tronche. Donc, on en reste sur les manifestations, les différentes actions pour pouvoir rester visibles et toujours crier plus fort notre violaire, notre colère. Et à ne pas comparer avec la violence, parce que nous on est juste en colère, on n'est pas violent.
C'est être entendu, hein. C'est d'abord ça.
Déjà dans l'absolu, ce serait sympa. D'accord. La première revendication, c'est le pouvoir d'achat ou le pouvoir de vivre, carrément. Et puis la deuxième, d'accéder à une nouvelle démocratie, parce qu'on en a assez aujourd'hui en France de venir chercher nos voix pendant les présidentielles, puis une fois qu'on leur a donné nos voix, de se taire. Ben là, on fait entendre aussi nos voix. Donc aujourd'hui, on a besoin d'une démocratie où on puisse être participatif et actif dans celle-ci. Parce que depuis que je suis gamin, moi, tous les mouvements sociaux passent par la masse, par le nombre, tu comprends ? Donc, si à un moment donné, on est massif dans la rue et que le gouvernement comprend que la majorité des citoyens sont d'accord avec ce que l'on revendique, il se mettra par bouger. Quoi qu'il arrive, t'as un mouvement qui est apolitique ou apartisan, d'accord ? Mais dans ce mouvement, t'as du transpolitique, t'as du transgénérationnel, t'as du transcroyance, t'as du transidée, t'as du transsexuel, t'as de tout.
Oui.
Donc à un moment donné, si tu te sens concerné parce que tu es citoyen français et tu veux que les choses s'améliorent, d'accord ? Syndiqué, syndicat, ce que tu veux, je m'en fous, association, l'important c'est que tu viennes. D'accord ? Il faut sortir de cette idéologie de dire le gilet jaune représente. Non, le gilet jaune c'est une métaphore, c'est pour montrer que quelque chose ne va pas, qu'on reste visible, qu'on est dans l'urgence. Tu comprends ? Mais on reste des citoyens qui revendiquons simplement le pouvoir de vivre. Donc si un syndiqué est concerné par cela, bienvenue. Si un membre d'une association est concerné par ceci, il est le bienvenu. Si tu fais rien dans ta vie et que tu te sens concerné, t'es le bienvenu aussi. Tu comprends ? Moi je suis personne pour appeler. D'accord ? Et j'ai bien compris qu'aujourd'hui, il faut peut-être faire la différence entre syndicats et syndiqués, c'est-à-dire tu as des syndiqués dans le mouvement, tu as cette base, d'accord ? Mais des fois ils attendent que, je ne sais pas moi, les grands pontes des syndicats déclarent quelque chose. Ben moi non, moi genre, attendez plus les gars, les attendez plus. Rejoins-nous.
On est là.
Vous avez perdu un œil pendant ce mouvement-là. Vous n'êtes pas le seul.
Ouais.
C'est le symbole de quoi, tous ces yeux perdus ?
Ah, c'est le symbole de la répression. C'est le symbole de, comme je te disais, on vient chercher nos voix pendant les présidentielles, mais quand on donne de la voix pendant les 5 ans du mandat, voilà ce qu'on reçoit de la part de Macron. D'accord ? Là, j'ai une petite blague, tu vois. La France, ça nous coûtait un bras, mais aujourd'hui, elle m'a coûté un œil. Parce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui est en haut d'une tour, qui a l'ivresse du pouvoir et qui est incapable de comprendre ce qu'il est en train de faire. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui le suivent. C'est-à-dire tous ces députés, le doigt sur la couture, qui disent amen à M. Macron, n'ont même pas réalisé qu'aujourd'hui, il met à mal la démocratie, parce que quand tu te permets d'ouvrir ta gueule en France, on te pète une main, on te pète un œil, on te pète un pied, ou on te fout en garde à vue, on te fait 135 euros pour un pins. Donc c'est bienvenue dans la France à Macron. Puis elle est belle, hein, parce que quand elle est représentée aujourd'hui à l'international, il passe vraiment pour un guignol quand même.
On a au moins réussi ça.
La fraternité.
Les perspectives de ce mouvement dans les semaines, dans les mois qui viennent.
Fédérer et construire. Il faut fédérer un max de monde. Il faut faire en sorte que les gens n'aient plus peur de descendre dans la rue parce qu'ils ont installé ce climat de peur via la répression. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont peur. Parce que c'est eux qui attaquent. C'est le principe du chien. D'accord ? C'est eux qui attaquent. Donc c'est eux qui ont peur. Nous aujourd'hui, on est la force. Je dis, on est en colère et on vient juste exprimer notre colère. Donc qu'ils se méfient.
Merci pour Radio Campus.
Merci à toi, mon pote.
La sécurité des
Marines. Oh là là. Charge des policiers sur la place de la République en courant, à coups de matraque là. Ils ont chopé un gilet jaune. Là on est au milieu hein, de la foule, ça a été très très rapide, très brusque. Il y a un gilet jaune qui est traîné à terre. Là les policiers sont carrément sur la place de la République maintenant, hein. Je rappelle qu'on est toujours sur le parcours déclaré et officiel de la manifestation. Alors il est 18h, c'est-à-dire qu'on est sur la fin de l'horaire officiel et la charge des CRS était clairement pour attraper deux gilets jaunes qu'ils avaient dû repérer auparavant. Et c'est vrai qu'on a vu un policier de la BAC qui pointait du doigt des manifestants il y a quelques minutes.
Bande de malpolis, franchement, honte à vous.
Vous avez vu ce qui s'est passé, madame ?
Ah ouais.
Décrire pour les auditeurs de Radio Campus.
Une grosse charte sur la place, ils traînaient les gens par terre, ils en avaient rien à foutre sur qui ils fonçaient. Voilà, tout simplement. Voilà, ils sont contents, ils rigolent. Et en plus, on m'a traité de pouilleuse.
C'était un membre des forces de l'ordre qui vous a insulté,
oui,
madame ?
Oui, oui, et là, ils sont en train de gazer les gens.
Ah, il y a eu un gazage juste devant nous, là.
Regardez,
sa main. Oh la vache, ils sont en train de gazer avec les petites gazeuses à main, là, les gilets jaunes qui sont sur la place de la République.
Monsieur voulait nous dire ce qu'il
je
vous a mis en colère.
Ils me mettent un canon sur la gueule. Ils m'ont mis un canon sur la gueule. Après, ils m'ont mis la lacrymo sur le visage. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me taire. Je suis désolé, mais là, c'est mort.
Et je suis témoin.
Là, il y a la répression. Je me suis mangé le canon de flashball devant le visage.
Ouais, devant lui, dans la figure. J'étais là.
Ça fait à moins de 3 cm. J'ai eu le canon devant le visage à moins de 3 cm. Et là, on me demande de me taire. J'ai le canon devant le visage. Ça s'est passé au début de la manif. À l'heure actuelle, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lacrymo, on me demande de me taire, c'est mort. Je suis peut-être en fauteuil, mais je fermerai pas ma bouche. Je suis là pour tout le monde, je suis là pour ceux qui peuvent pas se défendre, je suis là pour ceux qui peuvent se défendre, mais qui n'ont pas le courage de le faire. C'est tout ce que j'ai à dire.
Je travaille chez XPO, j'ai d'être licencié, parce que j'ai dénoncé qu'ils volaient dans les caisses de l'État. Ils volaient sur les fiches de paye, et puis ils déclaraient au commissaire en compte le chiffre qu'ils voulaient, puis ils avaient les aides de TOS, CICE, loi Fillon, on vient de me licencier pour ça. C'est pour ça que je suis dans la rue. Cette injustice sociale, elle est anormale. Donc j'ai rejoint les Gilets jaunes depuis 15 jours, et je veux continuer mon combat de les dénoncer. J'espère qu'ils vont perdre au tribunal, parce que là, je fais partie de la CGT. On a pris un avocat, et j'espère qu'ils vont être condamnés. Il y en a marre de voler les caisses de l'État. Et toutes les boîtes de transport, ils le font. Il faut savoir que dans le transport, il y a deux taux horaires. Il y en a un pour les heures normales, il y en a un pour les taux horaires. Quand on a des primes mensuelles, ils se rajoutent au salaire de référence qu'on divise par le nombre d'heures effectuées et ça vous donne un deuxième taux horaire. Et ça, c'est pour payer les heures supplémentaires. Aucune boîte de transport le fait. Tout le monde vole dans la caisse de l'État. Là, vous avez les évasions fiscales et puis il y a ceux qui viennent nous piller à l'intérieur de notre pays. Et ça, personne ne va en parler. Il y a aucune. J'ai fait la grève de la faim pendant 12 jours.
Vous avez vu à l'antenne voilà. À Radio Campus il y a 15 jours.
Voilà. Et j'ai fait la grève pendant 2 semaines pour essayer de mobiliser les médias parce qu'ils ont reconnu ce qu'ils ont fait. Mais les médias, apparemment, la personne qui a fait ce travail, pareil, il m'a licencié sans. Il n'a pas été neutre. Ils ont tellement les bras longs, ces Américains. Ben voilà, ils pillent les caisses de l'État et on dit rien. Et on envoie les agents de sécurité, moi à Libercourt, pour me dégager parce que je dénonce qu'on vole les caisses de l'État. Mais c'est un truc de fou, on est dans un monde de malades. La justice sociale, elle est nulle part là. Alors tout le monde paye. Alors les petits artisans, les commerçants, leur trésorerie, zéro pour eux. Les fonctionnaires de police, là, leurs heures supplémentaires, leurs déplacements, là, ceux qui sont là, ils seront jamais payés. Et ils viennent nous matraquer, on se bagarre aussi pour eux. C'est une injustice totale. Et Macron, il fait quoi pour ça? Ces entreprises-là, ils ont un contrôle tous les 5 ans. Et ben, tous les 5 ans, moi j'ai été racheté 4 fois en 20 ans. Ça fait que pendant 20 ans, ils ont pillé les caisses de l'État. J'ai mis 14 ans pour y arriver. 14 ans, il a fallu que l'intersyndicale vote une expertise comptable pour le démontrer. Et ils l'ont reconnu, ils ont remboursé 2 millions de salariés. Mais quand ils ont vu qu'il y avait encore plein de thèmes, les congés payés, les arrêts maladie, l'intéressement, c'est trop d'argent. Donc, ils essayent de me faire taire, mais je ne me tairai pas. Je serai dans la rue avec les gilets jaunes maintenant, c'est terminé. Et je vais me battre avec eux. Voilà, merci à Radio Campus.
Alors, on garde son sang-froid. Aïe, pardon, je vous ai écrasé le gros orteil, je suis des brigades d'intervention. Répression, répression, répression. Vous êtes qu'un passant, même maintenant pour les manifestants. Les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée pour faciliter la circulation. Les trottoirs, c'est pour nous, la rue, elle est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers, si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce. Mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Douce majorité silencieuse. Pas d'opinion, pas de délit d'opinion. Pas de répression, pas de répression, pas de répression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? C'est pas un homme convenable, accusé de prix Nobel. Respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qui vous sur un tonneau, cher Renaud? Chacun son poste. Nous, c'est les trottoirs. Je m'ennuie. Vlac! Coup de grisou chez les mineurs. Ils sont en danger. Arakiri rikira. Arakiri rikira. Arakiri kirira le dernier. Eden! 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 Ici, on est libre. On n'est pas chez les colonels. On peut encore avoir un parterre de fleurs rouges devant sa maison. Ou siffloter n'importe quelle connerie de la télévision. télévision. On nous mettra pas en prison. Ah mais non, mais attention, attention, attention. C'est vrai, faut faire le procès de la vitesse pour bombarder le Nord-Vietnam en deux temps, trois mouvements. Mais pour les secours au Pakistan, on a tout le temps, on a tout le temps, on a tout le temps. Suspicion, suspicion, suspicion. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Loi contre la drogue. On peut venir vous trouver de jour ou de nuit dans votre lit. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Mais attention, où va-t-on, où va-t-on, où va-t-on? Et si ça continue comme ça, un jour on verra paître les magistrats, les lycéens, cul à cul dans la rue. Répression, suspicion, attention, où va-t-on, où va-t-on? Jusqu'où ira-t-on, 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 ira-t-on? Eden, 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 Eden.
Colette Mani, répression. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6. Alors, deux petites infos. Là, la semaine dernière, on avait eu Saïd Bouamama en interview dans la manif de soutien au mouvement qui se passe actuellement en Algérie. Et Saïd Bouamama, qui est un sociologue, vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle « Planter du blanc ». Ça, c'était la petite info en plus. Deuxième info, Laurent. Tu m'as fait une bonne remarque tout à l'heure pendant le précédent reportage. Tu disais il faut signaler aux gens mais que les CRS chargent toujours des cortèges plutôt pacifiques. Bah c'est ouais, vrai carrément. Que ça fait du bien de le rappeler. Laurent, d'ailleurs, encore toi. Oui, dis donc, Laurent, tu es au centre de tout. Quand même pas. Tu es au centre, ouais, en tout cas...
Faut que tu te calmes un peu, Laurent, je crois. Hein. C'est un peu too much, là.
Je vais essayer. Tu es au centre d'une orgie d'acronymes, puisque tu viens nous parler...
Une orgie d'acronymes.
Oui, c'est ça, une orgie d'acronymes. De RIP et de RIP sur la libéralisation d'ADP. Alors, que se passe-t-il, Laurent?
Oui, en effet, on a déjà entendu parler du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, une des principales revendications des Gilets jaunes et une manière renouvelée pour les citoyens de s'investir en politique. Et il faut dire qu'en matière d'attente citoyenne, le pouvoir est assez sourd et son parti, La République En Marche, est plus que jamais isolé. Isolé non seulement aux yeux du peuple, on le savait déjà, vu le degré de sympathie pour le mouvement des Gilets jaunes, mais isolé aussi au niveau du Parlement, puisque c'est une première en France, l'ensemble des groupes parlementaires de droite, de gauche, communistes, insoumis, se sont associés pour bloquer une privatisation, celle de l'aéroport de Paris, en la soumettant par référendum auprès du peuple français. La procédure s'appelle le RIP, référendum d'initiative partagée. C'est une nouvelle loi, puisqu'elle a seulement été mise en place en 2013 et qu'elle n'a jamais été utilisée. Depuis cette date, un cinquième des membres du Parlement et un dixième des électeurs peuvent s'associer pour proposer un référendum. La consultation ne peut porter que sur une série de sujets, dont les services publics, et c'est de services publics dont on parle aujourd'hui, puisqu'on traite du groupe ADP, c'est-à-dire Aéroport de Paris. Va-t-on brader ce bijou de famille, comme certains le disent? Vous pensez peut-être que c'est un débat qui ne concerne que les Parisiens, ou à la limite ceux qui prennent l'avion. Pas si sûr, parce qu'ADP, c'est la première porte d'entrée sur le territoire national français. 100 millions de passagers qui rentrent chaque année, une fois et demie la population française. ADP, c'est aussi 600 hectares de foncier. En superficie, ça correspond à la moitié de la ville de Roubaix. C'est dire si de nombreux projets d'aménagement du territoire sont soumis à l'aéroport de Paris. Enfin, ADP, c'est chaque année 175 millions de dividendes qui rentrent dans les caisses de l'État. C'est donc rentable, même très rentable. Va-t-on laisser s'évaporer cette recette publique à un moment où, nous dit-on, il n'y aurait plus d'argent dans les caisses pour embaucher le plus élémentaire des contrats aidés? Doit-on abandonner ce service d'ampleur aux aléas d'une entreprise privée plus soucieuse de la rémunération de ses actionnaires que des salaires de leurs agents ou du bon fonctionnement des services? Car rappelons qu'ADP a déjà ouvert une partie de son capital au privé, bien que l'État soit resté le principal actionnaire. Et que s'est-il passé en 2006 lorsque l'aéroport a été semi-privatisé? Patatras, 2000 licenciements. Alors qu'adviendra-t-il des salariés dans le cas d'une privatisation totale ? Patatras, privatisation, licenciement. Ça serait pas mal en effet que pour une fois, ce soit le peuple qui décide, parce qu'il est propriétaire de ce bien commun, les services publics nous appartiennent. Parce que chaque privatisation en France s'est traduite soit par une augmentation des prix, comme pour EDF-GDF ou encore les autoroutes payantes, soit par des licenciements, comme chez Air France ou l'aéroport de Paris, ou encore par des politiques managériales poussant les salariés au suicide, merci France Télécom. Eh bien, si on avait demandé au peuple son avis avant de privatiser ses services, il y a des chances que les fins de mois de leurs usagers comme de ses salariés auraient été un peu moins douloureuses. Et en cela, on peut remercier le combat des Gilets jaunes, sans lequel cet événement politique n'aurait certainement pas été possible et qui permettra peut-être, pour la première fois dans notre histoire, de demander son avis au peuple avant d'ouvrir la boîte de Pandore d'une privatisation.
Merci Laurent. Lydie, tu voulais enchaîner
direct. Oui, je voulais enchaîner directement parce que justement, une des conséquences de cette privatisation serait justement la mise en place d'une ligne privée qui serait nommée le Charles de Gaulle Express, qui relierait la gare du Nord au centre de Paris à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Et cette ligne privée roulerait déjà sur les rails du RER B, le RER B qui est une des lignes les plus surchargées, qui dessert toutes les communes de Seine-Saint-Denis, Le Bourget, La Courneuve, Aubervilliers et aussi Aulnay-sous-Bois, et qui est une ligne qui est très vraiment surchargée. Et donc, si on met en place cette ligne privée, forcément, il y aurait de moins en moins de RER qui circuleraient sur ces lignes-là. Donc, de plus, si jamais la concession est faite en faveur de Bouygues ou alors de Vinci, je prends qu'un exemple, la logique du profit à tout prix serait victorieuse et ça ne servirait pas du tout les usagers.
D'accord, donc c'est encore une privatisation de plus avec un marché qui va être livré comme ça à Vinci. Vinci, ça me paraît plausible, oui. Et Seb, qu'est-ce que tu voulais dire ?
Oui, rien du tout.
Rien du tout, mais très bien.
Non, on se retrouve dans 20 secondes pour parler de la rencontre entre les Gilets jaunes et puis les jeunes de la CGT de Tourcoing.
Arrête de déconner, Manu, on n'en peut plus. L'essence a augmenté, la vitesse est descendue. Tu bouffes toutes les retraites, sauf celle de ta morue. Les Français doivent se priver afin que tu t'en excuses. Si jamais tu savais ce qui t'attend, Manu, n'oublie pas, tu n'es pas roi, seulement président élu.
Allez, c'était une petite chanson de deux petites fillettes de la marche de Liévin samedi dernier.
Oui. Radio Campus Lille, disponible en DAB+.
Allez, on revoyage dans le temps avec On passe au rouge, puisqu'on repart le 3 avril à la Bourse du Travail. C'était organisé par le syndicat des étudiants lycéens et apprentis de la CGT Tourcoing, avec des gilets jaunes également et des jeunes. Voilà. Alors, ça parlait mouvement social, voilà, et jeunesse.
Oui,
c'est ça ?
Oui, c'est une rencontre entre deux groupes en lutte, finalement. Mmh. Hein, d'un côté, les jeunes syndiqués à la CGT, puis de l'autre côté, des gilets jaunes dans l'action depuis 5 mois maintenant. Et ben, on va vous passer 3 extraits un peu longs de cette rencontre de 5 minutes chacun. Et le premier, c'est tout simplement un tour de table. On n'a fait que la moitié du tour de table. Hein. C'est 2 fois plus long, mais c'est, je crois, très intéressant.
Créé en juin dernier, lors d'une assemblée générale qui a eu lieu ici même, avec une petite dizaine de participants, c'est ça. Néanmoins, le syndicat n'a vraiment pris forme qu'au fur et à mesure lors des mois qui ont suivi. Donc le CELA, c'est le syndicat étudiant lycéen apprenti CGT, et qui compte maintenant une vingtaine de membres.
Ce qu'on a pu faire pour au niveau étudiant, c'est qu'on a pu réaliser un tract qui normalement passe, voilà, que vous avez peut-être vu, qui passe là en ce moment. Donc on a pu réaliser un tract pour montrer aussi l'intérêt des gilets jaunes, parce que je pense que tout le monde était, j'en ai assez entendu parler pour savoir que les gilets jaunes étaient aussi intéressés au monde étudiant, voire le même lycéen. Et que du coup, c'est vrai que c'était pour montrer l'intérêt des gilets jaunes pour les étudiants et pour les appeler à venir et à s'intéresser au mouvement des gilets jaunes qui est stigmatisé en permanence par les médias et dont ils peuvent avoir une idée complètement faussée sur le mouvement.
Je propose du même coup de faire peut-être un tour de présentation succinct de chacun chacune afin de savoir qui parle et de où, etc.
Donc, bah moi, je vais me répéter par rapport à hier.
Il faut le présenter.
Ouais, mais attends,
c'est marrant. Simplement présenter.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se présente,
c'est tout. Une présentation individuelle afin que la personne qui t'a jamais vu sache d'où tu parles. Qu'est-ce que tu fais?
Moi, le bras Jean-Michel, trois quarts breton, un quart tourangeau. J'habite Tourcoing, je suis gilet jaune depuis le début.
Moi, c'est Joël, je suis retraité, j'habite à Tourcoing. Gilet jaune, bien sûr.
Moi, c'est William. Gilet jaune depuis le début. Militant CGT dans l'éducation, responsable CGT dans l'éducation, par ailleurs.
Ben, Gérard, retraité, gilet jaune depuis le début, et puis jusqu'à la fin. Voilà, on lâche rien. Parisien, en fait. Hein.
Oh, ça, c'est l'accent. Ça.
Bonsoir, je m'appelle Michel. Je fais partie de la délégation des retraités de la CGT. Et je m'aperçois qu'on a le même combat qu'avec les jeunes. Donc, je vois que notre présence, j'ai toujours dit, un jeune, un vieux, on va aller loin.
Bonjour, je m'appelle Sefel, gilet jaune de Tourcoing. J'essaie de ramener un maximum de convergence, comme beaucoup le font. Je suis content aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de corporations qui se mélangent, étudiants, lycéens, etc. Et on va essayer d'amener une grande convergence pour que ça prenne nationalement.
Donc moi c'est Salvateur, donc je ne suis plus étudiant depuis longtemps. Par contre, je suis un anti, comme ils disent. Je travaille à l'hôpital de Tourcoing, mais je suis gilet jaune depuis plus de 20 ans, parce que les revendications d'il y a 20 ans, c'est les mêmes que maintenant. Donc on est là, je pense que c'est le même combat pour nous tous, privés, publics. Même moi, en étant nanti, comme ils disent, j'ai la copine qui est partie en retraite avec 1035 euros par mois. Voilà. Et donc ça, c'est la réalité. Après, quand on dit que les fonctionnaires, c'est des privilégiés.
Bah, voilà. Je m'appelle Gabrielle, je viens de finir mes études et je travaille dans un call center. Et je suis venue parce que je voulais en savoir plus sur le mouvement des Gilets jaunes. Et que, enfin, je le suis de loin, mais je voulais en savoir plus.
Dylan, je suis gilet jaune et étudiant syndiqué à la CGT.
Moi c'est Paul, je suis étudiant infirmier à Lille et pareil, j'étais étudiante de Lille.
Jérémy, ingénieur informatique, gilet jaune.
Marine, infirmière du coup, depuis peu, puis étudiante non plus. Et du coup je viens du groupe des gilets jaunes de Lille et en gros on s'attelle à l'ensemble des problématiques parce que pour nous chaque thématique est juste et même celle des étudiants, c'est-à-dire qu'en gros, même si je suis plus étudiant, je pense que ça nous concerne aussi parce que on doit tous converger pour l'ensemble des luttes pour massifier.
Gaëlle, future étudiante, et gilet jaune depuis le début et dans la lutte depuis un long moment.
Manon, gilet jaune depuis le début, en recherche d'emploi. Bon, c'est pas facile, hein, la recherche de l'emploi, il n'existe plus. Voilà. Gilet jaune.
Bah, moi c'est Arnaud, gilet jaune depuis le début, syndicalisé CGT. Réfugié politique, si tu veux, ouais. Et encore un truc, c'est pour Manu. Manu, on va venir te chercher là.
Julien, gilet jaune de Tourcoing et en situation de handicap. Et on lâche rien.
Vous avez de la chance d'être sur On Passe au Rouge parce que c'est une des rares émissions qui peut diffuser comme ça des vrais morceaux du mouvement social. Là, c'était une rencontre, et c'est toujours une rencontre, entre les jeunes de la CGT et les Gilets jaunes. Et là, ils étaient en train de faire un tour de table. Ça, c'est le moment qu'on va écouter là, c'est le moment d'un échange de points de vue sur la convergence, les convergences entre les deux secteurs en lutte, j'allais dire.
C'est un combat de société. C'est-à-dire que ça englobe et la bouffe et aussi la planète. C'est le grand mot actuellement, on vous sert la planète à toutes les sources, mais le système capitaliste est, fondamentalement anti-écologique. Et jamais vous arriverez à le rendre écologique, c'est pas possible. Parce que le but du capitalisme, c'est de produire à moindre coût pour vendre plus cher possible. Donc pour produire à moindre coût, il faut acheter à moindre coût. Donc, mettre des mômes dans les mines pour aller chercher les métaux rares pour faire vos putains de smartphones et compagnie, quoi. C'est pas une revendication, demain je veux 2 jours de vacances. On va pas s'arrêter là, quoi. Vous savez à peu près ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes, hein.
C'est maintenant, on a une chance inouïe, la société bouge.
Et je viens d'apprendre une chose, c'est grâce aux gilets jaunes, au mouvement que Macron a distribué, soi-disant, de l'argent pour calmer la société, il a distribué en réalité 450 euros à 2 millions de personnes seulement. Voilà la réalité. Où est parti l'argent? Donc ça veut dire qu'il y a de la richesse en France. Il faut redistribuer les richesses, les gens. Et les savoirs. Les savoirs aussi. Donc, comme je disais au départ, un jeune, un vieux, un intellectuel, un professeur, il faut tous s'unir. Parce que ce qu'ils veulent, c'est ça, nous séparer, nous diviser, les clivages, et voilà. Donc je pense que... Et ce qui fait peur, c'est le mouvement. Un seul bonhomme tout seul, c'est pas peur. Mais tandis que là, on commence à les interpeller.
Le problème avec Parcoursup déjà, là, qui avait posé problème déjà l'année dernière, et qui pose encore problème, je pense. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est tendu maintenant à tout ce qui est paramédical, les infirmières. Donc en gros, clairement, il n'y a plus de concours. C'est les infirmières, on vous demande plus de réfléchir. Voilà, Parcoursup, c'est ça. Hein. Bah, pour tout ce qui est même par rapport au PACES, tout ça, mais bon, ça c'est encore une autre problématique.
Pourquoi ?
Tout ce qui est les écoles, enfin la première année de médecine qui va en gros, où il n'y aura plus de. Merci. Ah.
De virus clausus.
Et par rapport à ça, du coup, il y a aussi malheureusement les étrangers qui viennent étudier en France qui vont devoir payer. On était à combien ?
3 000 ? Là, ça, ils vont être à 2 770 euros.
Ouais, donc quasiment 3 000 euros pour pouvoir venir étudier en France, alors que c'est des, pour eux, c'est une chance. Et en fait, au final, on leur brise leur chance. Donc, ça, c'est aussi une porte ouverte à ce que les études elles deviennent payantes sur le long terme. Et ça, je trouve ça complètement inadmissible parce que la faculté, de base, c'est beaucoup pour les personnes qui n'avaient pas forcément les fils d'ouvriers, enfin les fils d'ouvriers qui n'avaient pas forcément les moyens d'accéder aux grandes écoles, aux prépas qui sont payantes, tout ça.
Et là, il y a aussi, donc, par rapport au niveau des étudiants, donc évidemment qu'il y a énormément de revendications qui sont à prendre en compte, comme par exemple contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants non européens, comme tu disais. Donc en fait, on se base sur la nationalité d'une personne pour savoir si elle paye plus cher ou non les études. Là aujourd'hui, ça se basait sur du 300 ou 400 euros, si je dis pas de bêtises, et que maintenant c'est 2700 euros pour les personnes qui rentrent en licence et 3700 pour les personnes qui rentrent en master. Et encore 3700 pour les personnes qui rentrent en doctorat. Donc en fait, au final, ça va s'étaler, je suppose, aux étudiants européens au final, hein. Et puis en plus surtout que la loi s'appelle Bienvenue en France, super l'accueil. Moi j'ai eu de la chance parce que là j'ai un bon appartement où il n'y a pas de rats, il n'y a pas de cafards, il n'y a pas de tout ça. Parce que l'année dernière je vivais dans un appartement de 9 mètres carrés sur l'université de Lille où c'était infesté de cafards, de blattes, de rats, de moisissures, enfin tout ce que vous pouvez imaginer de pire, ça y était. Et on faisait payer les étudiants 200 euros. Sauf qu'on met qui là-bas, les étudiants non européens. Je pense que ça serait bien, enfin je sais pas ce que vous en pensez, qu'on établisse une sorte d'ordre du jour pour savoir, je sais pas, par exemple,
où on va,
action commune peut-être, enfin moi je serais carrément chaud pour parler d'action commune parce qu'au final, si je dis pas de bêtises, on est tous d'accord sur la même chose je pense, on est tous d'accord sur les revendications, donc à ce moment-là on pourrait même partir sur quel lieu d'action, où, quand, comment, essayer d'établir certaines choses, essayer d'établir un tract commun. Avec les syndicats étudiants, c'est la CGT, et puis voilà, voir où on va quoi. Parler d'un tract commun avec des revendications et ensuite parler action. Je sais pas ce que vous en pensez, mais.
C'est une bonne idée, mais ça, du tract. Et surtout des actions concrètes quoi. Ensemble, des actions décidées, des actions concrètes ensemble.
Des actions qui font mal.
Ouais.
On va pas se disperser. Je vais revenir aux gilets jaunes. Il y a 300 gilets jaunes en prison. On n'en parle pas. On en parle un petit peu. Bon, déjà, dans les médias, ils n'en parlent pas, ça c'est normal. Entre nous, on n'en parle pas. L'annulation de toutes les peines, de toutes les convocations pour les gilets jaunes. Ça faisait partie des revendications. Maintenant, vous regardez les tracts, ça y est plus. Voilà, c'est un tout petit.
Après cet échange de points de vue, on va passer à la troisième partie de ce sujet. On va aller écouter le moment où les Gilets jaunes et les jeunes de la CGT vont s'organiser pour passer à l'action.
Quelles actions communes, Gilets jaunes, c'est la CGT, peuvent mener, où, quand, comment? Est-ce qu'on a des propositions autour de cette table?
Opération Tract.
Comment?
Opération Tract.
Ouais.
Opération Tractage.
Alors moi j'ai parlé tout à l'heure en fumant une cigarette avec
les lycéens là, qui sont là en face de moi. J'avais proposé que s'ils peuvent, qu'ils ramènent le maximum de lycéens lors d'un samedi avec une banderole. C'est ce que je leur ai proposé. Voilà. Et j'espère que si on arrive à le faire, un samedi bientôt, hein, eh ben ça va réveiller tous les autres lycées et tous les autres facs de la France entière. Voilà.
Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de sensibiliser sur les marchés. Il y a toujours du monde. S'ils voient des jeunes arriver et vous distribuez des tracts, les gens vont à l'écoute. Par contre, s'ils voient des gilets jaunes, c'est moins sûr. Ça passe aussi, ouais? Parce que moi, je suis de la Madeleine, donc forcément, c'est un peu plus compliqué, on va dire, parce que c'est un peu vite bobo. Mais je pense que, de manière générale, sur les marchés, il y a moins d'atteindre du public et d'attirer la sympathie, au minimum. Ouais.
Les tracts, généralement, les gens, ils n'aiment pas plus que ça, non?
Ça peut être intéressant, justement, pour ratisser large, de faire des stratégies avec gilets jaunes et sans gilets, pour toucher des publics différents.
Nous sommes tous concernés.
Parce que, bah oui, parce qu'il y a les sympathisants qui sont déjà sympathisants, ceux qui ne sont pas, au moins ça te permet de cibler un public qu'on n'a pas ciblé.
Ils vont tester l'an prochain, la première année de la réforme du lycée, de fait, qui va amener la réforme du bac. Aussi bien les lycéens des LGT, lycées généraux, que les lycéens professionnels. L'ELP rentre dans une réforme qui va rentrer en vigueur à la rentrée de septembre. Il faudrait peut-être voir un peu ce que les uns et les autres ils en pensent, comment ils réagissent par rapport à ça.
Par contre, du coup, au niveau des jeunes, on disait que ce qui est problématique aussi, c'est qu'en gros, dès la plus jeune âge, au départ, on est mis dans une société de compétition, en fait. Il y a ça, et le fait aussi qu'on casse notre espoir. C'est clairement, c'est qu'on dit aux jeunes, bah, demain, de toute façon, ouais, compte pas sur la retraite, tu l'auras pas. Donc il y a aussi une perte d'espoir chez les jeunes. Je pense qu'il faut du coup venir stimuler pour venir la redonner. Je pense, par rapport à ça, moi, j'aimerais bien proposer une soirée débat sur la thématique, peut-être Parcoursup, ça pourrait être intéressant.
Justement, je voulais proposer un support, à la fois ouais. Logistique et technique. Il y a un documentaire qui s'intitule « L'avenir à crédit », je crois, et ça relate justement la privatisation de l'enseignement supérieur aux États-Unis et puis en Grande-Bretagne. Et en fait, c'est ce qui va nous arriver en pleine figure ici. Comme Habib le disait, généralement, ce qui se passe 20 ans avant aux États-Unis, ça nous arrive en pleine face ici. Donc ça peut être un support intéressant. Et d'un point de vue logistique, ici, on a une salle de ciné-débat dans laquelle on organise tous les mois justement des ciné-débats, etc. Et pourquoi pas intercaler ce que tu viens de proposer, Parcoursup, ciné-débat, et faire venir...
Et on pourrait même en faire deux à la rivière, une sur Tourcoing et une sur Lille, parce que ouais. Je pense qu'à la Bourse du Travail, ouais. Ils seraient contents, je pense.
On peut ouvrir les portes d'une tonnette
oui,
dehors,
oui, oui, oui.
On peut agrandir les portes là, t'inquiète pas. On peut s'adapter, t'inquiète.
Il y a les deux semaines de vacances. La semaine du 22, il y a moyen de tracter sur ça, comme ça on informe les gens.
Ouais.
Et il y a moyen de faire ça, du coup, la semaine du 1er mai. Enfin, la semaine.
Ouais, la semaine du 1er mai, c'est pas déconnant.
Même c'est un week-end en plus.
Comment ?
C'est un week-end.
C'est un week-end.
Le 1er mai, c'est un week-end.
C'est pour ça que je dis que ça fait un week-end vu qu'il y a le 1er mai.
C'est un mercredi le 1er mai. Ah oui, mais l'idée c'est d'acter toutes et tous ensemble.
Du coup, il y aurait deux tracts à faire.
S'il vous plaît. Monsieur Breton.
Il y aurait deux tracts à faire, un sur les revendications étudiantes, c'est comme ça que je le pense.
Étudiantes, lycéennes.
Et, voilà. et un pour inviter justement à ce que les personnes se rendent au ciné-débat.
Parce que l'idée, c'est aussi les revendications, rajouter des choses lycéennes, parce que moi, j'ai parlé à pas mal de lycéens qui me demandaient « Ouais, pourquoi t'es gilet jaune? C'est bizarre et tout. »
Le ciné-débat, je trouve que c'est une excellente idée. Je trouve que le ciné-débat, c'est une excellente idée. Ça va permettre aux gens, par exemple, qui ne sont pas forcément intéressés par le mouvement des gilets jaunes, ou par les revendications, qu'elles soient lycéennes ou étudiantes, de s'intéresser aux revendications. C'est assez pédagogique, je trouve, de faire une diffusion de films. Et justement, le but, c'est d'attirer, de massifier, parce que le mouvement étudiant et lycéen est, on va pas se mentir, mort pour l'instant. Il est au point mort. Et que le but, c'est de rassembler et de mobiliser.
Du coup, voilà, on travaillera à l'atelier rédaction du tract ce soir-là, entre gilets jaunes étudiants, apprentis, etc. Et le CELA. Ça marche ?
Ouais.
Ça va ?
La Nice, 17h30 pour les étudiants pour le tract.
Il y
C'est un patron.
Ça, c'est des souvenirs au coin du feu, ça.
On passe au rouge, chaque lundi, de 19h à 20h, sur Radio Campus en 6,6. Non, on t'entend pas, Seb, je pense qu'il y a un petit problème. Mais oui, là, il est temps... Non, oui, et là non plus. Il est temps de passer, là, on devait...
Là, on m'entend.
Oui, voilà, on devait recevoir Yanis Seb.
Oui, c'est ça.
Du syndicat CGT.
Alors, c'est un des participants, c'était un peu le monsieur loyal de la réunion qu'on vient d'entendre. Yanis, qui fait partie donc du syndicat étudiant lycéen apprenti CGT de Tourcoing. Bonsoir Yanis, tu m'entends ?
Ouais, salut Seb.
Salut, salut. Alors, on a deux petites questions à te poser pour la toute fin de cette émission. On passe au rouge.
Bonsoir Yanis. Dans le reportage que l'on vient d'entendre, on a entendu qu'il y avait des actions concrètes qui avaient été décidées, comme la rédaction d'un tract ou de deux tracts, la diffusion commune sur les marchés avec les gilets jaunes et la programmation d'un ciné-débat. Je voulais savoir, est-ce que ces actions étaient entreprises ?
Tout à fait, ouais. Bon, l'idée c'était de travailler sur une base revendicative commune entre étudiants, lycéens, apprentis, à la fois gilets jaunes, mais aussi syndiqués CGT. Donc voilà, on s'est mis d'accord sur des revendications spécifiques à notre condition sociale. Et l'idée là, c'est que par exemple demain, on va décider où est-ce qu'on va tracter, quand est-ce qu'on va tracter, sur quel parvis de lycée, sur quel campus universitaire, etc. Tout ça en vue dans un prolongement de la lutte d'inviter les personnes qu'on va rencontrer durant les tractages à un ciné-débat le 7 quoi. Donc en fait c'est
le 7 mai donc ciné-débat organisé à la Bourse du Travail de Tourcoing.
Bourse du Travail de Lille.
De Lille.
À partir de 18h, ouais.
De Lille, à la Bourse du Travail de Boulevard de l'Usine à Lille. D'accord.
Et vous pouvez rappeler le nom du film, justement, que vous avez diffusé ?
Oui, bien sûr. C'est Étudiant, l'avenir à crédit.
D'accord.
Étudiant, l'avenir à crédit. Le nom du réalisateur, peut-être, vous l'avez en tête ?
Vianney. Ouais. Et donc voilà, tout ça, c'est un travail commun à inscrire dans un processus, et ça se fait étape par étape, mais voilà, quoi, ça s'organise... dans le Nord, quoi.
Il y avait d'autres promesses d'action hein, dans ce qu'on vient d'entendre là à l'antenne. Il y a ce ciné-débat, mais il y avait aussi l'idée de se donner une date pour fabriquer un tract. Il y avait aussi l'idée de le diffuser à plusieurs en mélangeant des gilets jaunes et des jeunes. Où est-ce que vous en êtes de ce côté-là ?
Le positionnement de la jeunesse étudiante, lycéenne et apprentie, gilets jaunes et syndiqués CGT, comme je le disais juste avant, il s'est fait sur une base revendicative spécifique liée à nos propres réalités sociales. C'est-à-dire que face à la marchandisation des services publics, le secteur de l'éducation n'y est pas épargné, et ceux qui en payent les premiers les frais, c'est les étudiants. Mais du coup, on se positionne contre l'augmentation des frais universitaires. On est pour la gratuité, justement. De l'enseignement universitaire, oui. On est contre la réforme des lycées professionnels, etc. Et en fait, cette base revendicative spécifique, elle est éminemment liée à des revendications qui paraissent, d'un point de vue extérieur, un peu plus général, hein, celle des gilets jaunes, donc contre la vie chère, etc. L'idée de remplir le frigo, quoi. Les étudiants sont eux aussi concernés par ça, puisque je rappelle que on leur reconnaît pas un statut de travailleur lorsqu'ils sont en faculté, et pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ils sont obligés de travailler soit le soir, soit le week-end, en se rendant sur le marché de l'emploi, pour pouvoir même pas vivre, juste survivre. Et c'est une des revendications principales des Gilets jaunes, hein, l'augmentation des salaires, des pensions, des retraites, des allocations. Donc on est d'accord là-dessus. Ça a été discuté en Assemblée Générale. Et très bientôt, pour caricaturer, jeunes et vieux... sous les couleurs du jaune, tracteront sur les parvis des lycées, les campus des facs, etc.
Alors, si on comprend bien, il y a un équilibre subtil à trouver entre les revendications spécifiques des jeunes et puis celles des gilets jaunes. Mais je vais quand même revenir à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous aviez décidé de vous rencontrer, je crois, un mardi. Hein, cette décision avait été prise lors de la réunion du 3 avril qu'on a entendue tout à l'heure. Est-ce que des gilets jaunes et des jeunes sont venus à cette réunion ? Est-ce que vous avez élaboré déjà ce tract ?
Bien sûr, bien sûr. Le tract est élaboré, comme je disais avant, sur les bases spécifiques de la condition étudiante, qui est liée à celle un peu plus large des revendications des Gilets jaunes en général. Du coup, effectivement, il y a eu des échanges lors de la dernière Assemblée générale entre la jeunesse étudiante, lycéenne, etc., et là-bas.
Et les Gilets jaunes.
Donc, et les Gilets jaunes de la France d'en bas, Tourcoing et alentour, effectivement.
Oui, c'est ça. C'est parce qu'en réalité, dans ce même lieu, à la Bourse du Travail de Tourcoing, se réunit, je crois, tous les mardis, c'est bien ça, une assemblée générale des Gilets jaunes du coin.
Tout à fait. De la France d'en bas, Tourcoing et alentour. Et du même coup, on a eu l'occasion d'échanger, de se disputer.
Et est-ce que des jeunes sont venus alors? Vraiment, c'est vrai ça.
Bien sûr, oui, c'est une réalité.
Des vrais jeunes. Les jeunes sont
dans la rue, les jeunes sont en assemblée générale Gilets jaunes, les jeunes sont là.
Je voulais savoir quelles sont les revendications exposées sur le tract. Voilà, de quoi parle-t-il ce tract? Le tract qui va être.
Tu parles du tract qui est en collaboration avec.
Je voudrais les grandes lignes, quoi. Oui. Les grandes lignes de ce tract.
Bah, les grandes lignes, c'est simple, hein. C'est le libre choix des parcours post-bac, par exemple. Tu vois, la fin de Parcoursup. Des revendications plus générales et qui rappellent celles des Gilets jaunes. Par exemple, la gratuité des transports. L'idée de cantines, de restaurants scolaires et universitaires gratuits. On s'oppose à la précarisation grandissante du fait des mutations du marché de l'emploi, des salariés qui sont en même temps des étudiants et des lycéens lycéennes. Par exemple, ce sont des exemples, quoi.
D'accord. Ah oui. D'accord, d'accord. Merci Yanis Dim. Alors Yanis, on peut peut-être rappeler alors les dates que vous nous proposez, parce que il y a, rappelez-nous alors la date de la diffusion du débat ciné qui va se produire d'ici quelques jours.
Ouais, alors deux dates, deux ciné-débats. Le premier dont on parlait déjà, donc le 7 mai à partir de 18h à la Bourse du Travail de Lille, avec pour support le documentaire Étudiant la vie à crédit, et un peu plus avant...
7 mai, 18h, Bourse du Travail de Lille, oui, et un deuxième rendez-vous, alors que propose, je crois, l'Union locale de la CGT.
L'Union locale CGT de Tourcoing, en partenariat, effectivement, avec la France d'en bas, Tourcoing et alentour, pour un ciné-débat autour du film de François Ruffin et Gilles Perret, Je veux du soleil, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à réserver, en appelant notamment l'Union locale de CGT de Tourcoing. Voilà, c'est 5,50€ l'entrée, il y a 220 places.
Merci Yanis, et puis n'hésitez surtout pas à nous tenir au courant des prochaines dates et des prochaines actions que votre syndicat étudiant lycéen apprenti forme avec les Gilets jaunes.
Ok. Salut, on passe au rouge.
Au revoir.
Ciao.
Oui, bon, alors il y a des infos qui se bousculent. On est en direct là sur Radio Campus. Il est 19h, bientôt 58 minutes. Et on a appris, peut-être comme vous, chers auditeurs, qu'en effet, la cathédrale de Parisienne, Notre-Dame de Paris, est en train de subir un incendie important. Et ça a peut-être des conséquences politiques.
Mais oui, puisque l'agence Milky Press me dit que l'allocution de Macron serait annulée. L'enfumage continue.
C'est de la vraie info, Milky?
Mais oui, écoute.
C'est de la vraie info BFM.
La vraie info BFM.
Si c'est du BFM, c'est que c'est sûrement...
BFM Gorafi.
Il y a peut-être quelque chose qui a changé, alors, hein.
Finalement, oui. Est-ce que ce sont des Gilets jaunes, Milky, qui ont mis le feu à cette cathédrale?
À mon avis, c'est des Gilets jaunes arabo-musulmans, c'est sûr.
Évident.
Ouais. Évidemment. En tout cas, c'est des terroristes. Fin...
Des terroristes.
Voilà. Bon, en tout cas, ces informations sont véritables. Alors vous, chers auditeurs de Radio Campus, qui vous apprêtiez à basculer sur la télévision pour écouter l'allocution de Macron, c'est fichu.
Bien sûr, parce que
ça va être reporté.
De toute façon, c'est terminé. Et maintenant, rien n'a encore changé avec Milky. Milky, rebonjour. Milky...
Je vais faire mon allocution.
Bah oui, il n'y aura plus que la tienne à écouter.
Une allocution.
Une allocution. Sinon, nous, on se retrouve lundi prochain à 19h sur cette même antenne. On n'oublie pas de podcaster cette émission sur campuslille.com.
Ou sur la page Facebook On Passe au Rouge. Bien c'était sûr. Une émission qui avait été présentée de façon honorable, je dirais, par
moyen plus.
Gros Dada. On peut quand même remercier
Salut Lydie
les
et Laurent.
Oui.
Bravo, Gros Dada.
qu'on ainsi retrouve que notre public à la fin du mois. Notre panel de Français qui est toujours présent ici.
À lundi 19h.
À lundi.